mais terrible. Si Dieu est créateur, si Dieu existe, il est le créateur. Si Dieu est le créateur, je ne peux pas être créateur. Donc Dieu n'existe pas. C'est une des phrases, je crois qu'on peut écrire ça, c'est extraordinaire, parce qu'on voit l'illogisme. Vous voyez ? Si Dieu existe, il est le créateur. Si Dieu est créateur, je ne suis pas un créateur. Donc Dieu n'existe pas. Parce que je suis un créateur. On veut être créateur à la place de Dieu. Et je crois que c'est ça l'intuition dominante de Nietzsche. C'est ça qui a été sa conduite. Cette volonté de puissance, c'est tout simplement pour créer. Donc, rien avant moi n'existe et n'est intelligent que ce que je fais. Je n'accepte pas quelque chose qui est antérieur. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est tellement anti-traditionnaliste. C'est pour ça qu'on est contre la tradition. Parce que la tradition, c'est quelque chose qui est antérieur avant moi. Donc insupportable, ça ne vient pas de moi. Je dois tout créer. N'est acceptable que ce qui vient de moi. Toute détermination antérieure à moi, c'est insupportable. Nietzsche dit ça à propos de la nature. Il dit ça. J'aime bien d'être dans la ville, parce que la ville me parle de l'homme. La ville me montre ce que l'homme est capable de faire. Dès que je suis en dehors de la ville, que je suis au désert ou à la montagne, c'est très curieux, il reprend ce qui est formé par le christianisme, Nietzsche. Nietzsche est formé par la Bible. Alors il prend tout de suite les choses de la ville. Si je suis au désert ou à la montagne, je suis en face de la nature. Et la nature me parle de Dieu. C'est insupportable. Parce que le désert et la montagne, je ne l'ai pas fait. Tandis que la ville, je l'ai fait. Je ne suis bien qu'en face de ce que l'homme fait. Donc Nietzsche exalte la créativité de l'homme. Dans tous les domaines. L'homme est le créateur de lui-même. Et c'est ça le surhomme. Il se crée lui-même. Il doit se créer lui-même. Je ne suis, je n'existe que dans la mesure où je crée. Vous savez, le bébé éprouvette, c'est ça. Il arrive. L'homme doit créer sa propre espèce. L'homme doit choisir l'humanité qu'il veut de demain. Tandis qu'accepter une nature antérieure, quelque chose qui vient, c'est impossible. Ça va très loin. Nietzsche et Freud, c'est quelque chose d'assez extraordinaire quand on regarde ça. Sartre exalte la liberté, ce que je vous disais tout à l'heure, par la néantisation. C'est la néantisation. Je ne suis libre que dans la mesure où je néantise l'autre. Donc, primat du néant. Il y a un primat du néant dans Sartre. C'est en ce sens-là que Sartre et Heidegger se tiennent. Heidegger ne se reconnaît pas dans Sartre, mais Sartre aime Heidegger. Et alors, tous les deux, c'est des philosophies du primat du néant. Puisque pour Heidegger, l'être apparaît sur le néant. Très, très curieux. Ça, c'est la dialectique. C'est la dialectique qui fait cela. Vous comprenez, je vais voir tout à l'heure l'origine de la dialectique. Ça vous éclairera peut-être, parce que ce n'est pas une génération spontanée, vous comprenez tout ça. Nous assistons à ça. Nous assistons à l'éclatement de l'hégélianisme. Et l'éclatement de l'hégélianisme, ce sont toutes ces dialectiques multiples. Et comment est né tout ça? C'est intéressant de voir comment est né tout ça. Alors, l'évolutionnisme absolu, vous comprenez bien, c'est d'être au terme de l'évolution. L'absolu, c'est ça. Je suis un moment d'évolution, je ne suis jamais au terme, mais je suis un moment d'évolution. Le tout, c'est d'être parfaitement de ce moment d'évolution. C'est d'assumer tout ce qui est antérieur et d'être parfaitement soi-même. Donc, c'est l'aspect, si vous voulez, de l'adaptation plénière. Je crois que l'évolutionnisme absolu, c'est l'adaptation. L'absolu, c'est l'adaptation. On est parfaitement adapté au milieu dans lequel on est. Être parfaitement adapté au milieu dans lequel on est, c'est justement vivre de l'évolution. Si vous n'êtes pas parfaitement adapté au milieu où vous êtes, il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est pas que vous n'êtes pas, vous êtes retardataire, vous regardez. Alors il y a quelque chose d'intéressant, c'est le sens du moment présent. Le néo-hégélianisme, j'ai dit Hamelin tout à l'heure, en réalité c'est Brunswick, mais peu importe, c'est le nom dont on ne voit plus, on n'en parle plus beaucoup, mais c'est quand même très important le néo-hégélianisme. Alors le néo-hégélianisme, c'est l'exaltation de la pensée mathématique. Vous voyez, vous retrouvez un positivisme dans l'exaltation des mathématiques. Mais il y a une noblesse dans les mathématiques, je ne vais pas nier, je crois que les mathématiques c'est quand même la science la plus noble. philosophie dépasse parce qu'elle est une sagesse, mais c'est une science la plus noble. Et au fond, quand les mathématiques veulent devenir un absolu et une sagesse, alors à ce moment-là, on tombe dans ce néo-hégélianisme qui veut que la pensée mathématique soit la plus grande lucidité de l'homme. C'est ce que dit Brunswick. L'homme n'est parfaitement lucide que dans la pensée mathématique. L'homme n'est parfaitement pur. La pureté de conscience du mathématicien qui est à lui-même l'auteur des mathématiques et donc qui est source des mathématiques. C'est pour ça que Brunswick dit « Dieu, c'est une équation différentielle. » Ça montre très bien ce qu'il veut dire. « Au commencement était le Verbe. » Il reprend la parole. « Au commencement était le Verbe. » Le Verbe, c'est la connaissance, c'est la conscience que l'homme a de sa propre connaissance. Et le Verbe le plus parfait, c'est l'équation différentielle. Alors vous êtes en présence d'une espèce d'absolu de la connaissance mathématique qui devient à elle-même sa propre conscience. Et Dieu, c'est la conscience de ma conscience. Si je suis parfaitement conscient de ce que je suis Dieu. Oui, la réflexion sur sa propre conscience. Donc l'absolu, Dieu c'est l'absolu, c'est pas Dieu, c'est moi. Et à ce point de vue-là, il rejoint tout à fait la pensée hégélienne, puisque pour Hegel, Dieu c'est moi. Et je suis, dans la mesure où je suis parfaitement conscient de cela, je suis Dieu. Et alors, dans le point de vue de Hartmann, qui est beaucoup moins en France, il est beaucoup moins en français, et au fond en Allemagne aussi, c'est un petit peu, hein. C'est pour ça que je me demandais d'où est Dieu, c'est sûrement celui qui a moins d'influence. Ça peut renaître, parce qu'il peut y avoir des vagues comme ça. C'est un primat de la responsabilité. Un primat de la responsabilité éthique. Très curieux. L'exaltation de la responsabilité éthique. C'est pour ça que ça reprend un peu Kant contre Nietzsche. Ça reprend Kant en exaltant le point de vue de la responsabilité. Rien n'est plus grand qu'un homme responsable. Chose de juste. Et alors, si Dieu existe, la responsabilité n'existe pas. Et tout se ramène à cette responsabilité. On pourrait dire, si vous voulez, c'est la reprise d'un stoïcisme moderne. Le devoir de l'homme responsable. Et qui est lui-même son propre juge. Et c'est très vrai, je ne peux pas juger de la responsabilité de quelqu'un. Alors il y a une espèce d'exaltation de cela. Je crois que ce sont les huit grandes formes. Qu'est-ce qu'il y a? Tout à fait, c'est très vieux. Et c'est le stoïcisme d'Épicure et d'Épictète, je veux dire, c'est bien ça. Le stoïcisme de Marc Aurèle, c'est bien ça. Le stoïcisme de Sénèque. Vous voyez, le stoïcisme a très marqué là. C'est un vieux reste. Alors, je crois qu'on peut faire quelques petites remarques, si vous voulez, sur ces. Alors ça, c'est des remarques philosophiques, mais c'est intéressant parce que nous baignons là-dedans. Si on pouvait détecter dans l'atmosphère que nous vivons, notre culture d'aujourd'hui, nous verrions qu'on est transversé par ça. C'est ça qui est très difficile. On est traversé par ça. Chacune de ces idéologies a une couleur particulière. Alors, il y a deux choses que je voudrais, comme nota bene, si vous voulez, voir d'où viennent ces idéologies. Elles se sont formées lentement. Pas d'aujourd'hui, c'est pas une génération spontanée. Formellement. J'ai lancé un jésuite espagnol, c'est rare qu'un dominicain ait comme étudiant un jésuite espagnol qui était venu à Fribourg pour étudier les idéologies modernes. Je l'avais lancé là-dedans pour essayer de voir. C'était un jésuite qui était déjà, qui avait du loisir, donc, qui pouvait faire une thèse de philosophie lentement, puisqu'il y avait la compagnie derrière. Alors il l'a fait très lentement. De façon intelligente, eh bien, il est arrivé à cette conclusion que ces idéologies modernes ne peuvent se comprendre que sur un fond chrétien. Ce que je crois très vrai. C'est intéressant au point de vue philosophique. Au fond, il y a un fond de culture derrière. Ces idéologies, c'est le fruit d'une théologie mal comprise. Et elles ne peuvent pas se comprendre dans un point de vue purement païen. Autrement dit, le grand-père de ces idéologies, ce sont des théologies. m'intéressait de voir un jésuite dire ça. J'en étais convaincu, hein. J'avais toujours une hypothèse de recherche, et je lui avais dit, essayez de chercher ça, parce que je suis persuadé qu'on ne peut saisir ces idéologies que de cette manière-là. Parce qu'on ne voit pas assez, justement. On ne voit pas assez que ces idéologies, c'est une espèce de laïcisation d'une théologie. C'est une laïcisation. Elle ne peut pas se comprendre autrement. Mais c'est très important. Alors, il serait intéressant de voir cela, de voir d'où ça vient. Je crois que c'est assez facile. Il y a Descartes, qui est la première idéologie. Sartre fait référence à Descartes et dit que si Descartes était notre monde d'aujourd'hui, il serait disciple de Sartre. C'est une manière élégante de dire la chose. Et je crois que c'est vrai. Ça, on dit ça avec beaucoup d'intelligence. Là. Ils montrent que si Descartes était de notre temps, il serait dans ces idéologies. Je crois que la première idéologie, c'est Descartes. Descartes a eu comme professeur des pères jésuites suarésiens. Il ne faut pas l'oublier. Suarez est le premier à faire une métaphysique à partir de l'idée d'infini. Ce que Descartes a repris. L'idée d'être est infinie. Et l'homme possède en lui l'idée. C'est toute la métaphysique de Suarez. Et Suarez est celui qui s'oppose à Occam. Je crois que Occam, ce sont des théologiens. Suarez, la différence est que Suarez veut faire de la philosophie, tandis qu'Occam reste théologien. Eh bien, Occam, qui est 30 ans après saint Thomas, qui se veut aristotélicien, c'est, je crois, le grand-père de toutes ces idéologies. Et c'est très intéressant de voir ce que dit Occam. Occam dit, le jugement d'existence, nous y reviendrons, le jugement d'existence par lequel je suis en contact avec la vérité, en réalité, c'est très simple, c'est l'affirmation qu'il existe quelque chose, mais je ne sais rien du tout de cette chose. La seule chose que je connais, c'est que je connais. Vous voyez, avant Descartes, il y a eu un théologien qui a dit « La première chose dont je suis certain, c'est que je pense. » Descartes n'a rien inventé. Il faut bien comprendre ça. Descartes a dit dans un langage français ce que les autres avaient dit dans un langage latin. Et alors, lui, Occam, est le premier à dire « Le lieu de la certitude, c'est intelligo. » C'est pas le cogito, c'est intelligo. Intelligo est amo Socratem. Je pense et je suis l'ami de Socrate. J'aime Socrate. Parce qu'il est franciscain. Alors il dit amo Socratem. Je sens franciscain qui demeure. Parce que franciscain doit paraître uniquement intelligo. Mais comme Descartes n'est pas franciscain, entre deux est passé les maîtres suarésiens, c'est ses professeurs de philosophie. Donc il a laissé tomber amo Socratem. Oui, c'est très intéressant, parce qu'on voit comment la dialectique laisse tomber l'amour. Au point de départ, il y avait deux sources. Intelligo et amo Socratem. Ça, c'est le franciscain. Intelligo et amo Socratem. Immédiatement est passé entre deux Suarez, et Descartes ensuite dit cogito. Et à partir de Descartes, les idéologies commencent. Parce que je ne commence pas ma philosophie à partir de l'expérience, je commence ma philosophie à partir du cogito. Je pense. Je ne cherche plus la vérité, je cherche la certitude. Vous savez ce que dit Descartes, qui est très modeste. Descartes dit, peu importe de découvrir la vérité, ça n'a aucune espèce d'importance. Si je découvre la vérité en dehors d'une méthode, la vérité ne me sert à rien. Le tout, c'est d'être fidèle à une époque. Aujourd'hui, on dirait, le tout, c'est d'être fidèle à la dialectique. On ne cherche plus la vérité. On cherche la fidélité à la dialectique. La fidélité à la méthode. C'est ça que Descartes a mis en pleine lumière. C'est en ce sens-là, vous voyez, que Descartes est source de toutes ces idéologies contemporaines. Ça, j'en suis sûr, au point de vue philosophique. Alors, avant Descartes, le théologien Occam. le théologien en cap, franciscain, de Londres, il ne faut pas l'oublier, et les marxistes, le reconnaissent. Ils ont dit toute la dialectique matérialiste est née de l'Angleterre. Ils l'ont dit. Elle est née de la théologie anglaise qui a remplacé la métaphysique par la logique. C'est ce qu'Abraham a fait. Il a supprimé la pensée philosophique et la métaphysique, il a mis la logique à la place. La logique, c'est le fruit de l'homme. C'est l'homme qui a fait la logique. Elle n'existe pas dans la réalité. C'est le fruit de l'homme. Et donc, c'est intelligo, je pense, qui est premier. Mais c'est extraordinaire de voir ça. Et le jugement d'existence est jeté. Il est jeté uniquement, je constate qu'il existe quelque chose dans la réalité, mais je ne le connais pas. Je ne connais pas la réalité. Je ne connais qu'une seule chose, c'est intelligo. Et un mot Socrate. C'est franciscain. Bon, alors voyez l'origine. Je crois que c'est très important notre monde. Voyez, là je rejoins Nietzsche. Notre culture européenne et chrétienne. Et quand elle quitte cet aspect chrétien, alors elle se laïcise et elle tombe dans la dialectique. C'est très curieux ça. Alors il faut revenir à la source. Voyez. Il faut revenir à la source. Si je veux comprendre quelque chose, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure, nous reviendrons à la source. Je crois que la dialectique d'aujourd'hui nous oblige de revenir à la source. Autrement, on va vers un suicide de l'humanité. Nous allons rapidement vers un suicide de l'humanité. Ça, j'en suis sûr. Le suicide de l'humanité, il est. Alors, il y a le signal d'alarme. Attention, attention. Sauvons l'homme. Nous allons vers le suicide de l'humanité. Parce que, de fait, au point de vue de la pensée, ce suicide de l'humanité, il est déjà accepté dans les idéologies. L'homme disparaîtra, il restera les idéologies. Vous savez, c'est dans le marxisme, c'est ce qu'il existe. L'homme disparaîtra, il restera l'idéologie marxiste, qu'on adore comme un dieu. Alors là, j'arrive à cette chose, c'est que les idéologies ne sont-elles pas les idoles de notre monde d'aujourd'hui? Alors là, je parle en théologien. Je change de vitesse maintenant. Jusque-là, j'étais en philosophe. J'ai cherché la source de ces idéologies. C'est important de voir cela. On le dit jamais, c'est pour ça que je le dis. Parce que ça, on le dit jamais, on ne montre jamais la source de ces idéologies. C'est intéressant parce qu'on voit que l'idéologie est née à partir d'un moment. Et elle est née en terre des théologiens qui ont voulu remplacer la métaphysique par la logique. C'est la logique qui fait le lit des idéologies. Alors, on va dire que la logique n'est pas bonne. La logique est bonne comme un instrument. Elle est bonne, comme dit Aristote, comme l'organone. Pour Aristote, la logique, c'est l'organone, c'est-à-dire un instrument, un moyen. Le jour où vous faites du moyen la fin, vous matérialisez tout. Alors, ici, le point de vue du théologien. Je serai bref, hein, parce que je ne veux pas. Le théologien est toujours long, ça fait terrible. Il y a quelque chose qui me semble très important à voir. Alors, au point de vue théologique. C'est que ces idéologies, ce sont des idoles, puisqu'elles sont au-delà de l'homme. Tout ce qui est au-delà de l'homme, que l'homme construit, comme au-delà de l'homme, ce sont des idéologies. Ce sont des idoles. Alors, à la place d'être des idoles de fer, de bois, de bronze, ce sont des idoles très subtiles de notre monde d'aujourd'hui. Alors, nous avons le harem des idéologies d'aujourd'hui, qui sont toutes ces idéologies. Et au fond, on voit tous ces adorateurs de ces idées. Et le grand danger, c'est de devenir soi-même adorateur de ces idées. Alors, comprenons. Je crois qu'on peut dire que ces idéologies qui sont nées de la culture chrétienne, qui sont nées de la théologie, qui sont une laïcisation de la théologie, sont des anti-christianismes. On est en présence de l'Antichrist. Vous allez tout de suite voir. C'est ça qui m'impressionne le plus. L'ange des lumières, l'ange des ténèbres se changera en ange de lumière. Eh bien, je crois qu'en présence de ces idéologies, on est en présence de l'ange des ténèbres qui se change en ange de lumière, qui veut sauver l'homme par lui-même. Vous savez ce qu'a dit le Saint-Père quand il est venu à Paris? Il a dit ça aux évêques. J'aurais aimé que tous les évêques reprennent la chose et puis essaient de comprendre. Le Saint-Père a dit que l'Église d'aujourd'hui se trouvait en face de la méta-tentation. Ça, c'est le philosophe qui dit ça. La méta-tentation, ça n'a jamais été dit. Le pape aime bien inventer des petits mots comme ça pour que ça puisse faire des petits slogans, mais ça n'a pas été répété. Ça n'a pas été répété. Moi, je le reprends parce que je trouve ça admirable. La méta-tentation, c'est la tentation par excellence. Et il dit la tentation par excellence, c'est l'homme qui veut sauver l'homme. Donc le Saint-Père nous montre que ce sont les idéologies d'aujourd'hui qui sont la tentation majeure. La séduction majeure, ce sont ces idéologies. Le Saint-Père n'a pas besoin de le dire, il ne pouvait pas le dire du reste. Et il a simplement souligné ça, méta-tentation. Donc pour le théologien, c'est très important de comprendre que ces idéologies, c'est la méta-tentation. C'est l'homme qui veut se sauver par lui-même et qui veut être son propre sauveur. L'homme qui veut se sauver par lui-même et qui veut être son propre sauveur rejette le Christ, rejette le Père, Dieu. Or, vous savez ce que dit Saint Jean? Saint Jean nous dit, les antichrists, ils sont nés de chez nous, ils sont sortis de chez nous. Et l'antéchrist, c'est celui qui nie le Christ et qui rejette le Père. Alors c'est quand même assez curieux, il y a le signalement. Alors, je crois qu'on peut assez facilement comprendre cela. Il faudrait faire un double tableau, n'est-ce pas? Je ne peux pas le faire ici, parce que je n'ai pas envie de le faire, mais il prend trop longtemps. Mais il y a quelque chose qui est très important. Le Christ est venu proclamer les béatitudes humaines. Le Christ nous a montré comment nous pouvions être des hommes bienheureux. Les béatitudes. Bon, les béatitudes sont 8, et elles sont 7. C'est curieux, 7 et 8. Croyez bien, je n'ai pas fait ça à cause de ça. Non, non, j'ai été loyal. J'ai été loyal et je veux rester loyal au plan philosophique. Mais une fois qu'on est philosophe et qu'on est théologien, on regarde un tout petit peu. Bon, les grandes béatitudes évangéliques représentent le cœur de la vision anthropologique chrétienne. Le chrétien ne peut pas regarder l'homme en dehors des béatitudes évangéliques. Il est chrétien. C'est ça qui est au cœur de toute l'anthropologie chrétienne. Non, en tant que théologien, je peux dire ça. Et c'est ça qu'on oublie aujourd'hui. La grande vision de saint Augustin, reprise par saint Thomas. Donc là, on est en bonne tradition. Tradition de saint Augustin et tradition de saint Thomas. C'est de montrer comment les béatitudes évangéliques sont le fruit des sept dons du Saint-Esprit. Les sept dons du Saint-Esprit fleurissent en nous dans les béatitudes évangéliques. Alors, je vous donne simplement ce petit parallélisme que je vais faire en parallèle avec la manière dont je vous ai donné les différents athéismes. Et vous comprendrez tout de suite comment chacun de ces athéismes sont des antithèses des béatitudes évangéliques. Chacun de ces athéismes, s'ils sont des idoles, promet à l'homme le bonheur. C'est assez impressionnant. J'ai découvert ça. Ça m'a beaucoup impressionné. C'est assez impressionnant. Je ne l'ai vu nulle part ailleurs. C'est pour ça que je vous le donne. Parce que je ne vous dis pas, je ne peux pas vous envoyer les choses. Je ne l'ai pas encore écrit. Parce que quand on écrit ça, j'ai fait une fois un premier article qui a été refusé. Parce qu'évidemment, on ne peut pas écrire ça. C'est pas possible. On ne peut pas écrire ces choses-là. C'est nauséabond aujourd'hui. C'est pas trop loin. Alors, je vais essayer de comprendre avec vous. La béatitude du don de piété. Je commence par là à cause du marxisme. Non, j'ai commencé par le positivisme. La béatitude du don de science. La béatitude du don de science. Bienheureux ceux qui pleurent. À première vue, vous ne comprenez pas du tout. Hein. Vous comprenez le don de science face à l'exaltation de la science, ça c'est facile à comprendre. N'est-ce pas? C'est facile. Eh bien, le don de science est lié à bienheureux ceux qui pleurent. Et bienheureux ceux qui pleurent, vous savez comment les grands théologiens saint Augustin et saint Thomas l'ont interprété. La créature qui devrait nous conduire à Dieu devient un obstacle à l'égard de Dieu. Le don de science nous empêche de construire des idoles. Et le don de science nous fait pleurer sur les idoles que les hommes créent. C'est pour ça que je mets le don de science, bienheureux ceux qui pleurent. Je vais assez vite. Face au marxisme, le don de piété. Bienheureux les miséricordieux. Le marxisme veut toujours plaider la cause du malheureux, de l'ouvrier, sous-prolétaire, et ainsi de suite. Vous voyez bien. Freud, le don de sagesse. Le don de sagesse, c'est bienheureux les pacifiques. Très curieux que Freud veut nous donner la véritable paix. Et on trouve la paix pour Freud que quand on revient à cette conscience de l'inconscient. Ce qui est impossible. Vous ne pouvez pas avoir conscience de l'inconscient. Donc vous avez face au freudisme la béatitude de la sagesse, le don de sagesse, bienheureux les pacifiques. En face de Nietzsche, volonté de puissance, créativité, je mettrai le don de force. Ceux qui ont faim et soif de la justice. Face, donc, en face de Nietzsche, le don de force, ceux qui ont faim et soif de la justice. En face de Sartre, le don de crainte. Le don de crainte, bienheureux les pauvres. Bienheureux les pauvres, voyez. Le primat du néant, la saveur du néant, la laïcisation du don de crainte. Face à l'évolutionnisme, le don de conseil, bienheureux les doux. C'est bienheureux les doux. Face au néo-hégélianisme, le don d'intelligence, bienheureux les cœurs purs. Et face à Hartmann, la morale, à la responsabilité prise comme absolue, bienheureux ceux qui luttent, les persécutés, qui n'est pas rattaché à un don particulier, mais qui est la manière dont tous les dons sont vécus. Ils sont vécus dans la lutte. Alors, je ne développe pas, parce que ça, ce serait de la théologie, je me permets simplement. Vous voyez, de simplement souligner. C'est un très beau sujet de contemplation, de réflexion. Parce que c'est, je crois, alors là, profondément, au point de vue théologique, je crois que c'est vraiment ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons comment, à travers ces idéologies, si on veut les regarder jusqu'au bout, le regard théologique ne supprime pas le regard philosophique. Et le regard théologique ne peut exister que s'il y a le regard philosophique. Les théologiens d'aujourd'hui ne sont pas assez philosophes, ne sont pas assez intelligents. Je peux le dire, parce que j'enseigne la philosophie. Alors, je peux le dire. Bon, les théologiens d'aujourd'hui ne sont pas assez philosophes. Et n'étant pas assez philosophes, ils croient qu'on peut mêler la foi à ces idéologies. Et tout le drame de la théologie d'aujourd'hui, c'est qu'on voit ces amalgames. On veut faire une nouvelle théologie à partir de ces idéologies. Et quand on fait une nouvelle théologie à partir de ces idéologies, on perd la foi. Et on reste idéologue. C'est l'astuce, hein, de ce qui se passe. Donc, je m'arrête, hein, je ne voulais pas parler plus que moi. Alors, mais c'est ça, n'est-ce pas, nous laissons la discussion théologique, c'est pas le but, mais c'est pour vous montrer, parce que c'est quand même important, c'est pour vous montrer que ce regard philosophique sur les idéologies d'aujourd'hui, bon, il a une répercussion sur la destruction de l'homme, et que profondément, ces idéologies, si je veux les comprendre jusqu'au bout dans un regard de foi, on voit que ce n'est pas l'homme qui les a inventés, il y a derrière lui quelque chose de plus intelligent. Parce qu'ils ne savent même pas eux-mêmes. On leur dirait ça, mais pas du tout. Pas du tout, c'est pas vrai du tout. Ils sont menés. C'est l'homme qui veut s'exalter en sauvant l'homme par lui-même. Alors, on peut maintenant entrer dans les questions, les échanges de vie.
que toutes ces idéologies sont développées sur un fond de christianisme et que...
Alors, vous voyez, je ne veux pas faire une synthèse de toute la philosophie maintenant. Quoi, je serais tenté de le faire en vous disant, comprenez bien, c'est une petite synthèse. Parce que je crois que la personne humaine exige tout l'effort du philosophe. Toute la philosophie, pour moi, est toujours pour essayer de comprendre ce que c'est que l'homme. Quand je dis l'homme, je prends l'homme concret, pas l'humanité. L'homme concret, c'est-à-dire vous. L'avantage du philosophe, c'est qu'il a toujours son laboratoire avec lui. Son laboratoire, c'est lui. Parce qu'en ayant lui, il réfléchit sur l'homme. Et c'est qu'en réfléchissant sur l'homme, il peut tout faire. C'est ça qui est merveilleux dans la philosophie. C'est que vous avez toujours votre possibilité de réfléchir sur vous-même. Et réfléchir sur vos diverses activités. Et comprendre que la réflexion sur vos activités ne vous démobilise pas, mais au contraire, vous permet d'aller plus loin. Alors avant de commencer cette petite synthèse au niveau philosophique, je voudrais simplement vous rappeler que depuis un certain nombre d'années, il est évident que la philosophie et la psychologie et la politique se sont très très tournées vers le problème de la personne humaine. C'est intéressant de voir cela. Je pense à Mounier, je pense à Maritain, je pense à des quantités d'autres, Max Scheler en Allemagne, qui ont regardé le problème de la personne humaine. C'est intéressant parce que ça prouve, hein, si le philosophe a fait ça, ça prouve qu'il y avait un danger de perdre le sens de la personne humaine. Alors, je ne vois pas ici la position de Maritain. Vous savez, Maritain distingue et sépare individu et personne, ce que je n'aime pas beaucoup. Parce que je crois qu'individu et personne doivent au contraire s'unir très fortement. Si nous avons le temps, nous en dirons un petit mot à la fin, parce que c'est quand même intéressant de voir cette position-là, comme la position de Mounier. Mais je crois que ce qu'il faut plutôt essayer maintenant, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il y a de meilleur dans la psychologie contemporaine sur la genèse de la personne humaine. Je commencerai par là. Pour vous montrer ensuite comment ce que le philosophe peut dire sur la personne humaine ne contredit pas ce que ses psychologues disent, mais permet d'aller plus loin. Nous ne pouvons pas nous rester au niveau sociologique et psychologique. C'est impossible. Vous voyez, ça m'a beaucoup frappé il y a déjà une dizaine d'années, non plus, ça fait maintenant 15 ans. Les secrétaires des syndicats chrétiens suisses, romans, catholiques et protestants, sont venus un beau jour me chercher à Fribourg. J'en connaissais un. Il m'a dit, est-ce que vous ne pourriez pas consacrer tous les ans 3 jours pour nous? Alors j'ai dit, pourquoi? Nous avons besoin d'une réflexion philosophique. Nous sommes enseignés par des sociologues, nous sommes enseignés par des économistes, et nous sommes en face de nos adversaires, secrétaires des syndicats socialistes qui vont se former à Moscou, en Suisse. Ils vont se former à Moscou. Ils reviennent avec une pensée sur l'homme, une idéologie et une dialectique. Et face à eux, avec notre sociologie et nos études économiques, nous ne savons pas leur répondre. Alors, si vous voulez bien, nous voudrions que vous passiez 3 jours avec nous pendant un certain nombre d'années. J'ai fait ça pendant 10 ans avec eux. C'était très intéressant. Quand j'aurais dit que je faisais la même chose avec des patrons à Paris, ils m'ont regardé. Et on voudrait bien assister à ce que vous dites aux patrons. Je dis la même chose. Quand même, vous dites la même chose? Je dis exactement la même chose. Je fais de la philosophie avec les patrons de Paris. C'était le demain. J'ai eu le temps de demain qui était venu me chercher en disant... Je voudrais faire de la théologie avec vous, si vous voulez, régulièrement, avec tout un petit groupe. Alors je dis non, vous avez beaucoup plus besoin de philosophie que de théologie. Alors il m'a regardé, oui, on fera la matinée en philosophie et le soir en théologie, si vous voulez bien. Parce que je crois qu'il y a une réflexion sur l'homme qui est importante. Deux mondes étaient venus me trouver en me disant, il était scandalisé du reste. Quand on est scandalisé, quelquefois, il y a un effort de l'intelligence qui sort à ce moment-là. et qui veut aller plus loin. Et de Monk avait interrogé un théologien, je ne le nomme pas, et il lui avait dit, écoutez, moi il y a un gros problème. C'est le problème humain et le problème de l'efficacité. Et le théologien lui a répondu, tout ce qui est efficace est humain, donc allez-y. Et de Monk lui a dit, non, 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 il y a sûrement quelque chose d'autre. Alors je voudrais que vous puissiez nous faire comprendre la différence entre le problème humain et le problème de l'efficacité. Et on est parti par là, ça a duré assez longtemps, et ça continue, tu vois, ça continue, cette petite... Tous les mois, on passe une matinée ensemble à Poissy, au foyer de charité de Poissy. Et c'est intéressant de mise en commun, si vous voulez, de diverses expériences et de réflexions. C'est vrai, on parle aux syndicats, aux secrétaires des syndicats chrétiens. En Suisse, on peut le faire. En France, c'est un peu plus difficile. N'est-ce pas ? Mais en Suisse, on pouvait le faire. On pouvait le faire. C'est vrai, je suis resté très fort en relation avec eux. Parce qu'ils avaient besoin d'une réflexion philosophique. C'est vrai que la psychologie et la sociologie ne suffit pas. Parce qu'elle ne va pas jusqu'au bout. C'est un des dangers, si vous voulez, c'est de considérer la psychologie et la sociologie comme un absolu. Ça fait partie de ces idéologies qu'on a nommées ce matin. Vous avez partie du positivisme. C'est un dernier secret du positivisme, c'est de faire croire que la psychologie nous donne une vision adéquate de l'homme. Ou que la sociologie nous donne une vision adéquate de l'homme. Mais cependant, la psychologie et la sociologie nous disent des choses intéressantes sur le conditionnement de l'homme. Et c'est ça qui est intéressant en psychologie. Alors, je vous donne ici ce que je crois être la chose la plus importante dans la psychologie sur la personne humaine de Charles Audier. Ce sont mes psychanalystes de Paris qui m'ont dit que c'était ce qu'il y avait de mieux. Donc, je crois. C'est ce qui est mieux, parce que je ne suis pas un spécialiste de la psychologie, ça m'intéresse, mais je ne peux pas tout connaître. Et alors, ces psychanalystes m'ont dit que pour eux, c'était Charles Audier qui avait dit les choses les plus intéressantes sur ce que représentait la psychologie de la personne humaine, la construction de la psychologie de la personne humaine. Alors, je vous donne un petit schéma sur ce que Charles Audier dit sur la structure de la personne humaine. Ou de la personnalité humaine, d'un niveau psychologique. Puis après, nous entrerons d'un point de vue proprement philosophique. Charles Audier nous dit que les sentiments du moi fort, le moi fort, a trois dimensions. Un moi fort implique la sécurité. Un moi fort implique l'autonomie. Un moi fort implique la valorisation. Voilà, je crois, ce que Charles Audier nous dit comme structure de la personnalité humaine. Une personnalité humaine n'est forte, c'est-à-dire qu'elle est capable de lutter contre tout ce qui détruit la personnalité. Qu'est-ce qui détruit la personnalité ? C'est l'angoisse. L'angoisse, c'est face à la sécurité. L'autonomie, c'est face à l'aliénation. Et la valorisation, c'est face à la culpabilité. Autrement dit, il y a trois grandes crevasses en nous à l'égard de notre personne humaine, de notre personnalité humaine. C'est l'angoisse, l'aliénation et la culpabilité. Je crois que ça résume assez bien. Ça résume assez bien et ça montre assez bien comment il doit y avoir une conquête permanente de notre moi. Ce que nous portons tous en nous, hein, plus ou moins. Il y a des petits centres d'angoisse. Faire attention, il ne faut pas les toucher. Il y a des petits centres d'aliénation. Et puis des centres de culpabilité. Chacun d'entre nous, c'est sûr. Uniquement au point de vue humain, c'est évident. Je réfléchis à partir de là. Ce que Charles Audier nous dit. Vous comprenez que le moi personnel se construit dans le temps. Bien évident. Notre moi, il est dans le temps. La conscience de notre moi. J'ai conscience de ce que je suis à travers le temps. Alors, l'autonomie, c'est à l'égard du présent. La sécurité, c'est à l'égard du futur. et la valorisation, c'est à l'égard du passé. Je vais m'expliquer, et vous allez tout de suite saisir, c'est facile à comprendre.
C'est de l'ordre de la psychologie, on saisit ça tout de suite.
N'est-ce pas ? À l'égard du présent, on a un sens d'autonomie. Et l'aliénation, c'est le milieu dans lequel on est qui nous empêche d'avoir une autonomie parfaite. Alors tout ça, c'est à base, comprenons bien, l'angoisse, l'aliénation et la culpabilité, c'est l'imaginaire qui risque toujours de supprimer la lucidité que nous avons. Je ne dis pas conscient et inconscient. J'aime mieux dire l'imaginaire et le point de vue de la lucidité. Et je crois qu'il faut beaucoup mieux. L'inconscient est imaginaire. Quand je dis imaginaire, ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel. C'est imaginaire, c'est de l'ordre que l'imagination, nous la portons en nous. Et quand l'imagination l'emporte, on le sait très bien. Or, de fait, c'est le présent, le sens de l'autonomie, c'est le présent. Et le point de vue de l'aliénation, c'est justement quand nous sentons que le milieu dans lequel on est nous empêche d'être nous-mêmes. Alors on est blessé, on n'a pas l'autonomie. Ah, je voudrais bien faire ça, mais à cause de... Je ne peux pas arriver à faire ça, je ne peux plus prendre... Mais il se sait, c'est constamment, ça, on voit ça. Je donne pas d'exemple ici, vous en avez tous, c'est pas la peine. Puis nous-mêmes, on est tous, sur certains points, on sait très bien qu'on n'a pas une autonomie parfaite. Sur d'autres points, on peut avoir une autonomie plus grande. Et c'est dans la mesure où on a saisi que les domaines où on a une autonomie plus grande, qu'on est plus à l'aise dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là, je suis libre. Vous voyez, l'autonomie nous donne cette liberté. La sécurité, c'est à l'égard du futur. Quelqu'un qui est angoissé, il ne faut surtout pas lui parler de demain. C'est la plus grande gaffe que vous faites. Parce que vous augmentez le facteur d'angoisse. Regardez le futur, c'est le facteur d'angoisse. Tandis qu'au contraire, la sécurité, c'est justement, je peux regarder demain. Ça va. Et la valorisation, c'est à l'égard du passé. Alors quand je parle de culpabilité, je ne parle pas au point de vue moral, je parle au point de vue psychologique. La culpabilité psychologique. Il y a des gens qui sont un facteur de culpabilité énorme, à tel point qu'on sait très bien qu'on leur confiera n'importe quoi, immédiatement ils diront que ça craquera. On mettait une assiette en main et ils sont sûrs de lâcher. Il a cassé parce qu'on leur a dit qu'il cassait tout, qu'il brisait tout. Alors il y a immédiatement ce facteur. Bon. C'est très intéressant ce point de vue-là, je crois que c'est très juste. Il y a en nous donc six dimensions de notre structure, de notre moi profond. Nous avons conscience de ces six sentiments qui sont en nous. Les sentiments du moi. C'est comme ça qu'ils les appellent. Et ça se construit, ça se fait. On les a plus ou moins forts. Mais c'est notre personnalité se construit tout le temps. On ne peut jamais dire, j'ai une personnalité suffisante maintenant, ça y est. Mais bon, jusqu'au bout, on a l'auto-éducation de notre personnalité. Et notre personnalité doit se construire. Alors si vous voulez, maintenant, je ne veux pas insister plus, hein, mais j'y reviendrai après. Maintenant, je vais regarder au plan proprement philosophique. Parce que c'est ça qui m'intéresse de plus. Mais simplement pour vous montrer que le soubassement psychologique est intéressant. Et je dis que c'est un soubassement psychologique. Parce que c'est du côté du conditionnement. Et de côté du conditionnement, il faut que le soubassement, vous savez, c'est important quand même. Hein, parce que si ça se construit sous les soubassements qui sont fêlés, ça se répercutera après. Et les fêlures, les grandes fêlures, c'est important à les détecter. Alors je vais au contraire maintenant essayer de comprendre au plan proprement philosophique que représente la personne. Alors là je suis obligé de faire une petite synthèse philosophique. Je vous la donne comme une synthèse philosophique. Donc je ne peux pas vous donner toute la démarche. Du reste là je vous l'ai donné comme une synthèse aussi. Ce sont des conclusions de Charles Audier après une étude extrêmement... Mais c'est plus facile à comprendre parce que nous avons tous, chacun d'entre nous, le sentiment de notre autonomie, notre sentiment de notre sécurité. Le sentiment, ça nous saisissons tout de suite. La psychologie, on peut sauter le pouls. Tandis que le point de vue de la philosophie présuppose une analyse. Alors, je vais essayer avec vous d'essayer de comprendre ce que représente la personne humaine dans ses dimensions les plus profondes. C'est évidemment assez délicat à voir ce que c'est que la personne humaine. Donc nous regardons, je ne dis plus les sentiments du moi, je parle donc de la personne. Qu'est-ce que c'est que la personne ?
Qu'est-ce que c'est que la personne humaine ?
La personne humaine implique nécessairement en premier lieu un aspect fondamental d'un être qui a en lui, ce qu'on va appeler au point de vue philosophique, la substance. Hein, je vais vous expliquer tout de suite. La substance, c'est-à-dire ce qui nous donne une autonomie dans l'ordre de l'être. Une personne humaine, c'est une réalité qui existe, concrète, individuelle, et qui a en elle une autonomie. Une autonomie réelle dans son existence. C'est elle qui existe. Elle a cette autonomie profonde. C'est tout le grand problème métaphysique de la substance. Nous sommes des êtres déterminés. Nous avons une détermination en nous. C'est ça la substance, une détermination dans notre être, qui fait que notre substance humaine implique une nature humaine plus un esprit. C'est ça qu'il faut saisir. Nous avons une nature en nous, nous sommes déterminés, bien sûr. Notre nature humaine, ce n'est pas la nature du singe, ce n'est pas la nature de l'ange. C'est une nature humaine. Notre nature humaine implique, alors il faudrait préciser, vous voyez comme quoi on touche tout de suite des tas de problèmes, hein, implique notre âme spirituelle et notre corps. Et notre âme spirituelle font que justement il y a en nous l'esprit. Et puis notre corps, par où nous sommes déterminés.